Un jour qu'il poussait dans ses toiles des cerfs timides, il fut aperçu par la nymphe à la voix bizarre, qui ne peut se taire quand on lui parle, qui ne sait point parler la première, Écho, dont la bouche redit les sons qui frappent son oreille. Écho était alors une nymphe et non une simple voix. Et cependant, dès lors, sa voix indiscrète ne lui servait comme à présent qu'à répéter les dernières paroles qu'elle avait recueillies. Junon l'avait ainsi punie. Souvent sur les montagnes, lorsqu'elle cherchait à surprendre les nymphes dans les bras de Jupiter, Écho l'avait adroitement retenue par de longs entretiens pour donner aux nymphes le temps de fuir. La fille de Saturne découvrit l'artifice. « Cette langue qui m'a trompée, dit-elle, perdra presque tout son pouvoir et je restreindrai pour toi l'usage de la parole. » L'effet suit la menace. Écho ne peut plus désormais que redoubler les derniers sons et répéter les dernières paroles de la voix qu'elle entend. À peine Narcisse, errant au fond des bois, a-t-il frappé ses regards, qu'elle s'enflamme et suit furtivement la trace de ses pas. Plus elle le suit, et plus son cœur s'embrase, pareil au soufre qui, répandu au bout d'une torche, attire soudainement la flamme qui l'approche. Que de fois elle voulut l'aborder d'une voix caressante et recourir aux douces prières. Son destin lui oppose et lui défend de commencer. Mais du moins, puisque son destin le permet, elle s'apprête à recueillir les accents de Narcisse et à lui répondre à son tour. Par hasard, séparé de ses fidèles compagnons, l'enfant s'écrie « Y a-t-il quelqu'un près de moi ?»« Moi !» répond Écho. Immobile de surprise, il tourne ses regards de tous côtés. « Viens !» dit-il à haute voix, et la nymphe appelle celui qui l'appelait. Il se tourne, et comme personne ne venait, « Pourquoi me fuis-tu » dit-il, et son oreille recueille autant de paroles que sa bouche en a proférées. Abusé par cette voix qui reproduit la sienne, « Unissons-nous » reprend-il. À ces mots, les plus doux que sa bouche puisse redire, Écho répond « Unissons-nous » et s'enivrant de ses propres paroles, elle sort du bois et s'élance vers Narcisse dans le doux espoir de le presser dans ses bras. Mais il fuit et se dérobe par la fuite à ses embrassements. « Je veux mourir, dit-il, si je m'abandonne à tes désirs. » Écho ne redit que ces paroles. « Je m'abandonne à tes désirs. » La nymphe dédaignée s'enfonce dans les bois et va cacher sa honte sous leur épais feuillage. Depuis ce temps, elle habite les antres solitaires. Mais l'amour vit encore au fond de son cœur et ne fait que s'accroître par la douleur des mépris de Narcisse. Les soucis vigilants épuisent et consument ses membres. La maigreur dessèche ses attraits. Tout son sang s'évapore, il ne lui reste que la voix et les os. Sa voix s'est conservée, ses os ont pris, dit-on, la forme d'un rocher. Depuis ce jour, retirée dans les bois, elle ne paraît plus sur les montagnes, mais elle s'y fait entendre à tous ceux qui l'appellent. C'est un son qui vit en elle. Comme elle, d'autres nymphes nées au sein des eaux ou sur les montagnes, et avant elle, une foule de jeunes gens eurent leur feu dédaigné par Narcisse. Une victime de ses mépris, élevant ses bras vers le ciel, s'écria « Puisse-t-il aimer à son tour, et puisse-t-il ne jamais posséder l'objet de sa tendresse ?» Ramnusie exauça cette juste prière. Près de là, une fontaine limpide roulait ses flots argentés. Jamais les bergers ni les chèvres, venant de paître sur les montagnes, ni toute autre espèce de troupeau ne s'y étaient désaltérés. Jamais oiseaux, ni bêtes sauvages, ni feuilles tombées des arbres n'avaient troublé sa pureté. Bordée d'un gazon que l'humidité du lieu entretenait toujours vert, l'ombre des arbres défendait la fraîcheur de ses ondes contre les feux du soleil. C'est là que Narcisse vient reposer ses membres épuisés par les fatigues de la chasse et par la chaleur. Charme de la beauté du site et de la limpidité des eaux, il veut éteindre sa soif, mais il sent naître dans son cœur une soif plus dévorante encore. Tandis qu'il boit, épris de son image qu'il aperçoit dans l'onde, il prête un corps à l'ombre vaine qui le captive. En extase devant lui-même, il demeure, le visage immobile comme une statue de marbre de Paros. Étendu sur la rive, il contemple ses yeux aussi brillants que deux astres, sa chevelure digne de Bacchus et d'Apollon, ses joues ombragées d'un léger duvet, son cou d'ivoire, sa bouche gracieuse, et son teint où la blancheur de la neige se marie au plus vif incarnat. Il admire les charmes qui le font admirer. Insensé, c'est à lui-même qu'il adresse ses vœux. Il est lui-même et l'amant et l'objet aimé. C'est lui-même qu'il recherche. Et les feux qu'il allume le consument lui-même. Que de vains baisers il donne à cette onde trompeuse. Que de fois il y plonge ses bras pour saisir la tête qu'il a vue sans pouvoir embrasser son image. Il ne sait ce qu'il voit, mais ce qu'il voit l'enflamme, et l'illusion qui trompe ses yeux irrite encore ses désirs. Trop crédule Narcisse, pourquoi t'obstiner à poursuivre un fantôme qui t'échappe sans cesse? L'objet de tes désirs est une chimère. L'objet de ton amour, tourne-toi et tu le verras évanoui. L'image que tu vois, c'est ton ombre réfléchie dans les eaux. Sans consistance par elle-même, elle vient et demeure avec toi. Elle va s'éloigner avec toi, si tu peux t'éloigner de ces lieux. Mais rien ne peut l'en arracher, ni la faim ni le repos. Couché sur l'épais gazon, il ne peut rassasier ses yeux de la vue de ses charmes menteurs. Il meurt du poison de ses propres regards, et soulevant sa tête, il s'écrie, les bras étendus vers les arbres qui l'entourent. Quel amant, ô forêt, essuya jamais de plus cruelle rigueur! Vous le savez, vous qui souvent avez prêté à l'amour vos mystérieuses retraites. Vous souvient-il, vous dont la vie a traversé tant de siècles, d'avoir vu dans cette longue nuit de temps un amant dépérir dans une aussi triste langueur? Une beauté me charme, je la vois et je ne puis la trouver. Tant est grande l'erreur qui se joue de mon amour. Pour comble de douleur, il n'y a entre nous ni vaste mer, ni longue distance, ni montagne, ni muraille fermée de portes. Un peu d'eau nous sépare. L'objet de ma tendresse brûle de m'appartenir. Chaque fois que je me suis penchée sur ces ondes limpides pour les baiser, j'ai vu sa tête s'avancer et sa bouche approcher de la mienne. Ma main semble près de l'atteindre. L'obstacle le plus faible s'oppose à notre bonheur. Ah, qui que tu sois, sors de cette onde, unique et tendre objet de ma flamme, pourquoi me tromper en échappant sans cesse à mes embrassements? Certes, ni ma beauté ni mon âge ne méritent de tel mépris. Moi-même j'ai été aimée, et des nymphes ont soupiré pour moi. Je ne sais, mais la douceur de tes regards m'invite à l'espérance. Quand je tends mes bras vers toi, tu me tends les tiens. Quand je ris, tu souris. Souvent même quand j'ai pleuré, j'ai surpris des larmes dans tes yeux. Tes signes répondent aux miens, et en jugé par le mouvement de ta bouche gracieuse, elle m'envoie des paroles qui n'arrivent pas jusqu'à mon oreille. Mais je suis en toi, je le reconnais enfin. Ma propre image pourrait-elle m'abuser? Je brûle d'amour pour moi-même, et j'allume la flamme que je porte dans mon sein. Quel parti prendre? Dois-je attendre la prière ou l'employer? Mais que demander? Ce que je désire est en moi. C'est pour trop posséder que je ne possède rien. Ah, que ne puis-je me séparer de mon corps? Souhait étrange dans un amant, je voudrais éloigner de moi ce que j'aime. Déjà la douleur épuise mes forces, il ne me reste plus que peu d'instants à vivre. Je m'éteins à la fleur de mon âge. Mais la mort n'a rien d'affreux pour moi, puisqu'elle doit me délivrer du poids de mes souffrances. Je voudrais que l'objet de ma tendresse pût me survivre, mais unis dans le même corps, nous ne perdrons en mourant qu'une seule vie. Il dit, et dans son délire il revient considérer la même image. Ses larmes troublent la limpidité des eaux, et l'image s'efface dans leur cristal agité. Comme il la voit s'éloigner. « Où fuis-tu ? » s'écrie Narcisse. « Oh, demeure, je t'en conjure, cruel, n'abandonne pas ton amant. Ces traits que je ne puis toucher, laisse-moi les contempler, et ne refuse pas cet aliment à ma juste fureur. » Au milieu de ses plaintes, il déchire ses vêtements. De ses bras d'albâtre, il meurtrit sa poitrine nue qui se colore sous les coups d'une rougeur légère. Elle parut alors comme les fruits qui, rouges d'un côté, présentent de l'autre une blancheur éblouissante, ou comme la grappe qui, commençant à mûrir, se nuance de l'éclat de la pourpre. Aussitôt que son image meurtrie a reparu dans l'onde redevenue limpide, il n'en peut soutenir la vue. Semblable à la cire dorée qui fond en présence de la flamme légère, ou bien au givre du matin qui s'écoule au premier rayon du soleil, il languit, desséché par l'amour, et s'éteint lentement, consumé par le feu secret qu'il nourrit dans son âme. Déjà il a vu se faner les lis et les roses de son teint. Il a perdu ses forces et cet air de jeunesse qui le charmait naguère. Ce n'est plus ce Narcisse qu'aima jadis Écho. Témoin de son malheur, la nymphe en eut pitié, bien qu'irritée par de pénibles souvenirs. Chaque fois que l'infortuné Narcisse s'écriait « Hélas !» la voix d'Écho répétait « Hélas !» Lorsque de ses mains il frappait sa poitrine, elle faisait entendre un bruit pareil au bruit de ses coups. Les dernières paroles de Narcisse, en jetant selon sa coutume un regard dans l'onde, furent « Hélas, vain objet de ma tendresse !» Les lieux d'alentour répétèrent ces paroles. « Adieu » dit-il. « Adieu » répond-elle. Il laisse retomber sa tête languissante sur le gazon fleuri, et la nuit ferme ses yeux encore épris de sa beauté. Descendu au ténébreux séjour, il se mirait encore dans les eaux du Styx. Les naïades, ses sœurs, le pleurèrent, et coupèrent leurs cheveux pour les déposer sur sa tombe fraternelle. Les dryades le pleurèrent aussi, écho redit leurs gémissements. Déjà le bûcher, les torches funèbres, le cercueil, tout est prêt. Mais on cherche vainement le corps de Narcisse. On ne trouve à sa place qu'une fleur jaune, couronnée de feuilles blanches au milieu de sa tige.